La mêlée de l'info. Une émission de débat sur l'actualité nationale, animée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Radio Présence pour le 170e numéro de la mêlée de l'info. Nous allons une nouvelle fois y débattre des sujets à la une de l'actualité nationale avec mes trois invités du jour. Je salue d'abord une nouvelle venue dans cette émission, Léna Chiche-Portiche, membre du CRIF Toulouse-Occitanie, présidente de l'association Tous 7 Octobre à Toulouse. Et je salue également ceux qui l'entourent, Patrick Coste, ancien cadre de l'éducation nationale, ex-proviseur de lycée, chroniqueur sur Radio Présence, et Lucas Duval, membre du Parti Radical de Gauche, délégué national des jeunes de la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme. Bienvenue aussi à vous trois et merci d'avoir répondu à mon invitation à débattre ensemble. Il y a une semaine, à Amsterdam, des supporters israéliens venus soutenir l'équipe de football du Maccabi Tel Aviv ont été violemment agressés dans les rues, au point qu'on a même parlé de pogroms antisémites organisés et planifiés. Après ce triste et très inquiétant événement, le match de Ligue des Nations opposant la France à Israël a cependant été maintenu ce jeudi soir au Stade de France. Moyennant le déploiement d'un énorme dispositif de sécurité, les agressions à Amsterdam et le maintien de cette rencontre ont suscité de nombreuses réactions dans notre pays, certaines minimisant, voire justifiant, l'attitude des agresseurs, comme celle de la députée de la France Insoumise, Marie Messmer, qui a affirmé sur le réseau X que ces gens-là, je la cite, « ces gens-là n'ont pas été lynchés parce qu'ils étaient juifs, mais bien parce qu'ils étaient racistes et qu'ils soutenaient un génocide ». Dans ce contexte, est-ce qu'il fallait, selon vous, maintenir le match France-Israël à Paris? Et que vous inspire la montée continue de l'antisémitisme et des agressions antisémites en France et en Europe, un phénomène qui fait l'objet d'appréciations et de réactions pas toujours unanimes dans notre classe politique? Léna Chiche-Portiche, vous avez la parole.
Merci. Tout d'abord, concernant le maintien du match au Stade de France, évidemment qu'il fallait le maintenir. Évidemment qu'il ne faut pas céder à une quelconque pression. Si on commence à montrer des signes de faiblesse, c'est une atteinte directe à la démocratie. On peut observer qu'il y a une partie de la population française qui est sensible à des messages et à une idéologie qui s'oppose complètement à la démocratie. Et je pense que Bruno Retailleau a très bien réagi concernant ce point. Concernant la montée de l'antisémitisme, je pointe du doigt la France insoumise qui prend une part importante là-dedans. Elle a cherché à dissimuler le fait que les agressions étaient planifiées parce qu'il y a eu une enquête et il ressort que ces agressions étaient planifiées. On a en France un parti politique qui justifie un pogrom. Donc je trouve que c'est scandaleux.
Donc vous reprenez à votre compte ce terme de pogrom antisémite concernant ce qui s'est passé à Amsterdam.
Bien sûr, les Israéliens étaient visés parce que juifs. Il y a peut-être eu des chants qui ont dérapé, des chants de supporters qui n'étaient pas très fins. Mais il n'y a pas eu d'appel au meurtre. Et c'est surtout que tous les supporters ont été visés. Je le redis, il est ressorti que c'était planifié. Les supporters israéliens ont été visés parce que juifs. On entendait dans les vidéos qu'ils disaient Yahoud, qui veut dire juif en arabe. Donc bien sûr que c'est un pogrom antisémite.
Lucas Duval.
Je pense qu'il y a beaucoup à dire. Je sais pas si tout le monde mesure, en tout cas je pense que la plupart des gens mesurent la gravité de ces faits, mais que certains effectivement ont cherché à les minimiser. Quand en Europe, dans la ville d'Anne Frank
et de Spinoza d'ailleurs
et de Spinoza, que des juifs aient été massacrés, oui on peut le dire, parce qu'ils étaient juifs. Excusez-moi, mais je pensais être né au XXIe siècle. Je me réveille au XXe siècle dans les 16 heures les plus sombres. Maintenant, oui, effectivement, il fallait que ce match entre la France et Israël soit maintenu. Il ne fallait pas faire comme la Belgique, à savoir délocaliser ce match. Parce qu'il faut rappeler quand même que la Belgique Un pays dont on sait qu'il y a beaucoup de soucis avec l'islamisme et avec l'antisémitisme a délocalisé son match, donc le match entre la Belgique et Israël en Hongrie,
oui.
Par lâcheté, il faut le dire, par lâcheté. alors qu'en France, et vous l'avez dit, nous n'avons pas peur et nous faisons bloc aux côtés de nos concitoyens de confession juive, ou d'ailleurs qui ne sont pas de confession juive, mais de culture, et qui sont attaqués parce que, eh bien, ils auraient cette part de judéité. Maintenant, il y en a certains qui nous disent « Oui, mais ils ont chanté des chants racistes, ils ont brûlé un ou des drapeaux palestiniens. » Il y a quelque chose quand même, que ce soit véridique ou pas, il y a quand même une différence entre avoir des mots et taper quelqu'un, envoyer des gens à l'hôpital. Ce qu'on appelle la gradation de la haine. Hein. Nous, à la LICRA, quand on fait des interventions en police, enfin devant les policiers pour les former, on leur explique ce que c'est que cette gradation de la haine. Il y a les préjugés, il y a les mots, il y a les actes, et après il y a évidemment
les coups.
Et après, évidemment, on espère ne plus y arriver, mais il y a tout en haut de cette pyramide le génocide. Antisionisme, antisémitisme, on nous rabâche ça. Oui, mais on n'est pas antisémite, on est antisioniste. Quand j'entends des gens qui doivent se justifier, crier « je ne suis pas juif, je ne suis pas juif » pour éviter de se faire frapper, je demande à ceux qui justifient ces actes par antisionisme, par vengeance pour le peuple palestinien, le peuple gazaoui, la différence du coup qu'ils peuvent faire entre antisioniste et antisémite. Pour moi, là, sur cette séquence-là, c'est la même chose, malheureusement. Donc, ceux qui se cachent aujourd'hui en France, en Europe, dans le monde, derrière ce mot polymorphe qu'est l'antisionisme, portent une responsabilité, et il faudra, dans le futur, trouver une façon de pouvoir, eux aussi, les mettre face à leurs responsabilités, la justice, évidemment. Mais la justice d'État et pas une justice qu'on rendrait nous-mêmes.
Patrick Coste, après ces deux premières interventions.
Alors, sur les faits, hein, c'est-à-dire les faits de violence, qui sont effectivement verbaux d'un côté, parce qu'il y a eu quand même de l'insulte au monde palestinien qui a été prononcée par une des parties, et puis des violences physiques d'autre part. Dans tous les cas, il faut qu'on dénonce les faits de violence de part et d'autre. Et je suis d'accord avec les invités, il y a des dimensions de proportion de la violence, de gravité de la violence. Quand on est dans une réflexion de jugement, on réfléchit aussi à la dimension des proportionnalités des faits. Et là, en l'occurrence, il n'y a pas évidemment photo mise en balance d'une violence par rapport à l'autre. Ça, c'est première dimension. Deuxième dimension, et je suis d'accord avec madame, il y a des propos qui ont été tenus par, il faut être très très précis, par LFI, et puis maintenant depuis le 7 octobre, qui, du point de vue de l'état de conflictualité dans lequel on se trouve, du point de vue politique, ne sont pas acceptables en termes de responsabilité. Je veux dire, il y a des situations où on peut avoir, y compris des pensées où on dénonce la politique israélienne, où on dénonce les phénomènes de colonisation. Et ce sont des conceptions et des convictions qui peuvent être respectables. Mais ensuite, la façon dont on les exprime dans la conflictualité, surtout quand on a des représentations, surtout quand on est sur les médias, il y a une responsabilité collective, il y a une éthique derrière la politique. Et là, par rapport à cela, je considère que certains ont mordu la ligne. Mais au-delà de ces faits, ça a été dit par monsieur, on s'est réveillé en Europe avec la gueule de bois. Et c'est peu que de le dire, hein, quand je dis gueule de bois, par rapport à une réminiscence, recrudescence des phénomènes d'antisémitisme. On est sur des chiffres à 800 et quelques.
On va en parler, c'est une enquête qui vient de sortir,
Dernièrement. Donc il y a une sorte de flambée. Et on voit que ça passe les frontières. Hein,
oui,
pas simplement,
en France et en Europe,
c'est pas simplement franco-français, parce qu'on avait des explications à un moment sur la France selon lesquelles on était un pays en Europe où il y avait les communautés les plus importantes qui étaient mélangées, qui donc pouvaient expliquer qu'il y ait des facteurs particuliers à la France, mais on voit bien que c'est un phénomène européen. Alors, je vais m'écarter un peu des faits là, mais ce qui m'intéresse quand même, c'est d'essayer de comprendre un petit peu cette intensité de conflictualité et ce phénomène de rebond là de l'antisémitisme. Je crois qu'il y a deux brèches qui, par le 7 octobre, ont été ouvertes. La première brèche, elle est du côté du monde juif. Parce qu'il y a une conception, après la Deuxième Guerre mondiale, de la sécurité, représentation de la sécurité par le monde juif, qui a des spécificités. Les États ont des cultures de la sécurité, et ces cultures de la sécurité, d'un État à un autre, ne sont pas les mêmes, et le monde juif a ses représentations. Et là, après-guerre, il y a bien sûr la fondation de l'État d'Israël, mais on ne peut pas penser le monde juif qu'avec le Israël. Il y a aussi la diaspora. Et dans la représentation de ce monde juif sur les questions de sécurité, Israël représentait la neutralisation maximum possible de tout pogrom. Et donc la brèche, c'est d'avoir entamé cette sorte de citadelle de représentation de la sécurité pour les Israéliens, mais aussi pour toute la diaspora. Donc évidemment, il y a une diffusion des comportements d'autodéfense qui peut y avoir, qui se diffuse aussi par rapport à la diaspora, sur une représentation de la sécurité qui est spécifique au monde juif. Mais je crois qu'il y a une deuxième brèche. Je crois que j'avais annoncé deux brèches. La deuxième brèche, c'est que je crois que les États-nations européens, il y a un rapport de l'Europe aux Juifs. Et donc là, on est dans le contexte européen avec ces conflits. Et sur l'Europe, je crois qu'après-guerre, les systèmes constitutionnels, les formations de la loi se sont faites aussi dans la mémoire de la Shoah, y compris sur les représentations que l'on peut avoir de défendre les minorités, les positions antiségrégatives que l'on peut avoir des communautés les unes par rapport aux autres. Pour beaucoup, alors ça a mis beaucoup de temps à se mettre en place, hein, dans la mémoire des pays. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais c'est construit un état des droits dans la mémoire de la Shoah. Voilà. Et je crois qu'on est dans une situation là qui, par rapport au pogrom du 7 octobre, d'un véritable tremblement de terre par rapport à ces formations de la loi et constitutionnelle. Et là, à ce moment-là, côté monde juif, il y a évidemment un comportement d'autodéfense extrême par rapport à la représentation de la sécurité qu'ils peuvent avoir et ce qui est arrivé. Donc, et une politique est celle d'Israël en ce moment qui est extrêmement dure, hein, pour les agresseurs. Et on pourrait en parler aussi, hein, de cela. Mais du côté européen, il y a une désorientation par rapport aux formes de respect des ségrégations. Et donc, il y a, y compris des manières... du côté d'une conception du Sud global par rapport à la politique de l'Occident et d'Israël, des comportements de réactivité qui tiennent aussi à cette brèche qui a été ouverte sur des formations essentielles de la loi et de la justice dans la mémoire. Alors c'est paradoxal par rapport à la Shoah, hein, si on regarde du côté de LFI. Mais ça tient une brèche qui s'est faite à partir de la date du 7 octobre dans les fondements de notre mémoire.
Alors, je voulais aborder un point avec vous. Emmanuel Macron donc, a annoncé qu'il serait présent au Stade de France pour assister au match France-Israël. Est-ce qu'il faut y voir un signe fort de sa part? Parce que je rappelle qu'il avait refusé de participer à la marche contre l'antisémitisme il y a un an maintenant, après les attentats islamistes du 7 octobre 2023. Léna Chiche-Portiche.
Alors, est-ce qu'il faut y voir un signe fort de sa part? Je ne sais pas. Est-ce qu'il essaye de
se racheter,
voilà, plus tôt? On ne peut que regretter qu'il ne soit pas venu à la marche contre l'antisémitisme. Le fait qu'il vienne, bon, c'est quand même quelque chose de très bien, mais ça ne remplace pas son absence il y a un an à la marche contre l'antisémitisme. Il y a un climat de peur pour ce match. On le voit qu'il y a très peu de billets qui ont été...
Oui, alors le stade ne sera pas plein, ça on le sait. Loin d'être plein.
Voilà, il y a une partie de la population qui en fait par... comment dire, on l'a vu aussi précédemment, je me permets un parallèle avec Samuel Paty. En fait, une partie de la population qui adhère à ces idéologies empêche en fait la démocratie de se tenir en France. Il y a aujourd'hui des profs dans les collèges qui ont peur d'aborder certains sujets en classe. Et là, c'est un peu ce qui se passe au Stade de France avec les gens qui ont peur de se rendre à un match
voilà, de sport. Enfin, du sport.
Exactement. Ouais. Donc voilà. Bon, le fait qu'Emmanuel Macron vienne, je dirais que c'est normal.
C'est la moindre des choses.
Voilà, c'est la moindre des choses et c'est plutôt anormal qu'il ait manqué le rendez-vous l'année dernière.
Ouais, donc vous en êtes resté là. Pour vous, ça ne rattrape pas sa présence ce soir, ne rattrape pas son absence il y a un an à la marche contre l'antisémitisme. Vous, Lucas Duval, vous êtes d'accord avec cette analyse de la présence d'Emmanuel Macron à ce match?
Alors, je suis déjà d'une d'accord par rapport à l'analyse sur la présence à ce match et l'absence malheureuse il y a un an, mais je suis encore plus d'accord avec le parallèle qui est fait avec le cas de Samuel Paty, mais avec le cas de Dominique Bernard, mais avec le cas de Charlie Hebdo, mais avec le cas, et on pourrait en citer plein, ceux qui aujourd'hui trouvent des justifications à ce qu'il s'est passé à Amsterdam, ce sont les mêmes qui ont trouvé des justifications ou des excuses ou des « ah mais il n'aurait pas dû » lorsque Samuel Paty a été, il faut le rappeler, décapité pour avoir fait son métier de professeur. Ce sont les mêmes aujourd'hui. Et je pense évidemment à LFI, mais je pense aussi aux identitaires d'extrême droite qui très souvent, désolé je sais où je suis, qui très souvent sont des extrémistes religieux catholiques. Et en fait tous les extrémismes religieux ont pour seul but d'essayer d'être contre ce qu'a construit la République française et sur
excusez-moi,
ça
excusez-moi, est-ce que vous avez vu des identitaires
absolument pas
catholiques,
à moins que vous l'êtes
à moins que vous le soyez je parle pas de moi, même des gens qui nous écoutent non, se réjouir de ce qui est arrivé à Samuel Paty.
Alors non, mais j'ai vu des identitaires, des extrémistes catholiques qui ont dit oui, mais en même temps, on ne peut pas faire ça vis-à-vis d'une religion. C'est toujours la même musique.
Qui on peut dire ça parce que ça renvoie à ce qui se passait, ce qui a pu se passer dans les années 30 et même après, des gens qui disaient oui, mais en fait, ils l'ont bien cherché.
Mais
c'est
exactement
ça. Effectivement, et ça rappelle
le tweet de la députée LFI.
Qui date,
le tweet de la députée LFI, on est exactement là-dedans.
Ah bah oui, c'est ça.
Elle cherche des justifications. Ils n'ont pas été massacrés parce que juifs, ils étaient racistes et ils ont fait des choses, donc ils méritaient. Bon, déjà, ça prouve sa vision de l'état de droit, excusez-moi. Dans un état de droit, on ne fait pas justice soi-même.
C'est pas la loi du talion.
Donc déjà, ça prouve ça. Et puis, encore une fois, on est toujours dans le « oui, mais ». Il n'y a pas de oui mais à avoir. Quand des personnes sont prises à partie, sont visées pour ce qu'elles sont et non pour ce qu'elles font, c'est juste pas possible. Et encore, on ne peut pas être pris à partie physiquement pour ce qu'on fait. C'est juste pas possible. Moi, c'est pas du tout ma conception. Et je pense, c'est d'ailleurs pas la conception d'une majorité de Français et de la majorité, si ce n'est peut-être l'entièreté de vos auditeurs. C'est pas notre conception de l'état de droit et de ce qu'est la République. Ceci étant dit, j'aimerais quand même qu'on fasse, parce que tant qu'on est sur le cas Twitter, les députés qui ont une conception quand même particulière, j'ai vu tout à l'heure, non pas le tweet d'Adrien Clouet dont vous nous avez parlé.
On va en parler.
Mais un tweet d'Antoine Léaumont, qui est, excusez-moi de le dire, un influenceur TikTok. Voilà, il n'y a pas d'autre terme.
Ça existe.
Oui, mais quand on est député de la République, je pense qu'il y a quand même. Il y a autre chose à faire que d'être influenceur TikTok, bref, qui a dit Oui, on nous traite d'antisémites alors que nous nous battons tous les jours contre l'antisémitisme. Excusez-moi, un député de la France insoumise qui se plaint d'être traité d'antisémite alors qu'il se bat contre l'antisémitisme. Excusez-moi, ce sont ces mêmes personnes qui, parce que moi, je défends une vision universaliste du combat antiraciste, que je défends nos compatriotes qui sont victimes, eux, d'antisémitisme, que je défends les personnes qui voient la légitimité d'Israël d'exister, et moi je le pense également, qu'Israël est légitime en tant qu'État, nation, d'exister. Eh bien, ce sont ces mêmes personnes qui me visent, qui me traitent, elles, de raciste, d'islamophobe, de fasciste. Donc, j'ai l'impression que ces personnes vivent dans une réalité qui est tout à fait contraire à la nôtre, et qu'ils inversent tout ce qui se passe dans la vie, et ils ne voient pas, ils ne vivent pas les mêmes choses que nous.
Je pense que le professeur de philosophie Patrick Cosse aurait bien des choses à dire sur l'inversion aujourd'hui à notre époque, mais je reviens à ma question. Vous réjouissez qu'Emmanuel Macron soit présent cette fois-ci au Stade de France pour assister à ce match, même si, comme l'ont dit les deux précédents intervenants, ça ne rattrape peut-être pas son absence il y a un an.
C'est-à-dire que ça a déjà été dit à cette antenne. On a déjà évoqué le positionnement d'Emmanuel Macron dans toute cette période depuis le mois d'octobre, et j'aurais envie de dire que on constate quand même une sorte d'effet, je vais être un peu sévère, d'effet girouette. Donc d'un côté il prend des positions par rapport aux armes en Israël en se dissociant de toute la politique. De l'OTAN. Il est absent effectivement un certain nombre de manifestations. Là, il est présent absent dans ses positions, dans son parcours. Et j'ai l'impression, je développerai pas beaucoup plus, mais très souvent, je vois chez lui des positions qui sont liées aux interlocuteurs et à la situation dans laquelle il se trouve. Bon, ce qui est un rapport de la politique et de la représentation politique par rapport, on va dire, à des phénomènes de sophisme et de communication dans lesquels on se trouve. C'est tout un symptôme d'être dans des positions comme ça. Mais au bout du compte, sur des situations tragiques et de gravité, il n'est pas de bon ton d'être une girouette. Bon, ça, c'est pour Macron. Ensuite, comme vous avez évoqué Dominique Bernard et Emmanuel...
Samuel Paty.
Bon, ce sont des sujets en tant qu'éducateur et cadre d'éducation nationale qui, évidemment, ont traversé mon parcours. Ça peut être intéressant d'y jeter un regard, parce qu'au sein de l'éducation nationale, il y a eu, par rapport au phénomène de l'islamisme, des confusions de positions dans le parcours. Il faut quand même se souvenir que dans les années 2012-2013, il y avait des juifs dans les établissements qui s'exfiltraient pour ne pas subir les phénomènes de l'islamisme dans les établissements. Qu'il y a eu des rapports, le rapport Aubin par exemple, qui ont mis le doigt là-dessus, et ça a été enterré par les politiques, et ça a été enterré par les autorités publiques par rapport à ces phénomènes. Et il a fallu attendre probablement Charlie et le discours de Valls à l'époque pour qu'on dise tout était là.
Oui.
Et que politiquement, on reconsidère qu'il y avait une conflictualité qui était celle d'un ennemi de l'intérieur par rapport à cette situation. Voilà. Et donc, ça m'amène à cette synthèse par rapport à cette confusion. C'est que quand on est dans une situation de gravité, où il y a des responsabilités de tous les côtés, il serait aussi important de souligner cette bipolarisation des problèmes qui sont susceptibles de se poser. Mais dans une situation de gravité où il y a des idéologies qui viennent se condenser, se cristalliser les unes contre les autres, je crois qu'il est important en conscience de développer une hiérarchie du sens et d'être clair. Voilà. Tout à l'heure, moi je l'ai dit, la violence dans les stades, inacceptable, les proportions en termes de violence, c'est une hiérarchie de sens par rapport auquel il faut se situer. une éthique dans la politique, c'est une façon de hiérarchiser les significations. Voilà. Et je n'écarte pas dans mon propos, parce qu'il y a des auditeurs qui sont aussi de cette sensibilité-là, que la politique israélienne sur le Liban et sur la Palestine, c'est une guerre. Mais je n'oublie pas qu'il y a des lois de la guerre, avec un certain nombre d'éthiques aussi à respecter de la guerre. Et là, je pense qu'on a mordu la ligne aussi sur ce plan-là. Ça fait partie de la problématique et la façon dont la conflictualité est en train de s'attiser. Donc, par rapport à ça, il s'agit d'être au clair et de construire ses positions dans cette dialectique, qui est une dialectique où on a trop tendance à se ranger dans un camp unilatéral.
Alors, on va parler de Bruno Retailleau, dont le nom a déjà circulé. Donc, après le poste sur X de la députée LFI Marie Messmer, le ministre de l'Intérieur a annoncé qu'il avait décidé, je le cite, de signaler Madame la procureure de Paris les propos de Madame la députée Marie Messmer au titre de l'article 40 du Code de procédure pénale pour apologie de crime. Et puis, concernant Adrien Clouet, notre député de la France Insoumise de Haute-Garonne, première circonscription de la Haute-Garonne. Lui, il a déclaré que Bruno Retailleau et ses journalistes de préfecture étaient des petites frappes fascistes à propos de la réaction au poste sur X de Madame Messmer. Voilà. Est-ce que vous soutenez donc là aussi Bruno Retailleau va faire un signalement à Madame la procureure de Paris. Est-ce que vous soutenez la démarche du ministre de l'Intérieur? Est-ce que vous pensez qu'il faut désormais ne plus laisser passer ce genre de déclarations et les sanctionner, qu'elles émanent d'élus ou de personnalités publiques d'ailleurs?
Bien sûr. Bien sûr qu'il faut les sanctionner. Il faut des condamnations totales de ces propos qui sont parfaitement honteux. C'est une façon, en fait, de dire que tous les juifs seraient racistes et violents. C'est incroyable, en fait, qu'en politique, qu'il y ait ce genre de déclaration aujourd'hui. Comme mon collègue l'a dit tout à l'heure, voilà, on est en 2024. Moi, je trouve que c'est complètement incroyable qu'il y ait ce retour en fait de l'histoire. Il faut aussi, pareil, ce qui a été évoqué, bien dire qu'il y a pas d'équivalence en fait possible entre un dérapage verbal et le niveau de violence physique qu'il y a eu. Et aussi que c'était prémédité, que c'était justifié, qu'il y a eu des réseaux sur Telegram qui se sont organisés, qu'il y a des chauffeurs Uber qui ont déposé des Israéliens à l'hôtel, puis qui ont signalé la présence d'Israéliens dans les hôtels. Donc ça a été vraiment une chasse aux Juifs, comme ça a été dit. Et évidemment qu'il faut sanctionner tout propos qui pourrait justifier ou qui pourrait
minimiser
ce qui s'est passé à Amsterdam.
Donc vous soutenez la démarche de Bruno Retailleau
là,
de faire ces signalements
fait,
et
oui.
Donc pour qu'il y ait une sanction. Lucas Duval, est-ce que sur ce coup-là, vous suivez Bruno Retailleau? Je doute que vous le suivez sur d'autres propositions de sa part.
Sur ce coup-là, je le suis effectivement sur peu de choses, je suis d'accord avec lui, mais sur ce coup-là... De toute façon, entre guillemets, normalement, tout corps constitué aurait eu, normalement, si on suivait le code de procédure pénale, l'obligation de signaler cela.
Mais comme vous dites, normalement.
Voilà, bon, ça c'est entre la loi et les faits.
On peut se poser la question, pourquoi ça n'arrive que maintenant?
Oui, mais je pense qu'il y a déjà eu d'autres signalements qui ont été faits par d'autres personnes. Bon, là, de ce coup-là, Bruno Retailleau a décidé. En tout cas, il a décidé là, à ce moment-là, en plus de médiatiser, mais voilà. Pour revenir à Adrien Clouet sur Bruno Retailleau et les journalistes de préfecture, déjà je trouve qu'il y a une condescendance incroyable vis-à-vis quand même de la France des préfectures. Excusez-moi, je suis vraiment
mais il est
un enfant du pays.
Il
donc,
est élu d'une ville qui est une préfecture d'ailleurs.
Oui,
pas
c'est
d'une
ça.
Ville, d'une...
Oui, mais enfin, on se rappelle de ses conditions d'arrivée à Toulouse. Bref, je ne ferai pas de politique politicienne, mais disons qu'il a été bon dans ses cours de saut en parachute. Bref.
Oui, il n'est pas toulousain, vous voulez dire. Bah oui,
c'est dit.
Voilà,
il
je
n'est pas
dit.
Toulousain du tout. Oui.
Et je lui ai déjà dit, en toute amitié, on se connaît, lui et moi. Donc par rapport aux petites frappes fascistes, moi j'ai envie de lui dire, si jamais, je vais reprendre exactement l'argumentaire du coordinateur de la France Insoumise, si jamais il y a quoi que ce soit, qu'il porte plainte, qu'il fasse condamner ces gens, ces petites frappes fascistes comme il dit. Parce qu'il y a quelques jours, je crois que c'était il n'y a pas plus loin que 48 heures ou peut-être un peu plus, Manuel Bompard a dit, il n'y a pas d'antisémite chez LFI parce que personne n'a été condamné pour antisémitisme. Bah, c'est magnifique alors. C'est qu'il ne doit pas. Je vais vous donner une statistique intéressante. En 2020, zéro, je vous dis bien zéro, condamnation pour acte raciste. Enfin, pour discrimination raciste en France. Bah, c'est super, c'est qu'il n'y a pas dû avoir de discrimination raciste en France en 2020. Non, mais toujours chercher à, on va dire, à utiliser des arguments qui sont fallacieux, là, dans le cas d'Adrien Clouet, à utiliser des arguments qui sont condescendants, comme il a l'habitude de faire, c'est pas comme ça qu'un responsable politique devrait agir et devrait parler. Dans le mot responsable politique, il y a responsable. Et ces personnes-là, aujourd'hui, dans leurs actions, dans leurs mots, sont totalement irresponsables. Ils attisent la haine constamment et essaient de monter les communautés les unes contre les autres. Et malheureusement, ils essaient de monter une communauté soi-disant, je mets des gros guillemets parce que c'est pas du tout ce que je pense, mais c'est plus des études ou des commentateurs qui disent ça, une communauté arabo-musulmane issue d'immigration, blablabla, bon, je sais même plus quel terme ils utilisent, contre, enfin du coup que cette communauté-là soit pour la Palestine et donc de facto contre les Israéliens et par prolongation contre les Juifs. Et ce qu'ils font, c'est peut-être pire que d'être antisémite selon moi, parce qu'ils le font consciemment, de jouer avec cet antisémitisme-là et de mettre en danger nos concitoyens juifs.
Alors eux, ils sont antisémites selon vous ou ils sont électoralistes?
Peut-être des deux. Non, je ne saurais pas vous répondre. Je sais pas. Oui, c'est pas incompatible parce que honnêtement, je ne sais pas si. Alors, je ne dis pas que toutes les personnes chez LFI sont antisémites. Il doit y en avoir.
Certainement pas. Heureusement,
il doit y en avoir. Il y en a. J'en suis même convaincu. Mais le pire dans l'histoire, c'est qu'il y en a surtout qui s'amusent avec l'antisémitisme et encore une fois qui mettent en danger nos compatriotes juifs ou de culture juive.
Patrick Coste, alors bon, la question c'était les déclarations donc à la procureure de Paris de Bruno Retailleau concernant les déclarations donc de Madame Messmer et de Monsieur Clouet.
Ben, enfin, moi je crois que par rapport à la façon dont ce problème est posé, il doit l'être dans le cadre de l'état de droit qui doit faire justice par rapport à des situations qui ne serait pas légal. Bon. Et là, alors c'est important de parler de justice, parce que c'est une façon de ne pas être simplement dans la bataille politique et dans les champs idéologiques. Il y a une bonne distance à trouver par rapport à la façon dont les jugements doivent être prononcés, et les magistrats et les tribunaux sont faits pour cela. Alors là, en l'occurrence, s'il y a motif. Alors, on parle des violences à Amsterdam, les responsabilités, les actes qui ont été posés sont des exactions devant la loi qui doivent être jugées, avec aussi les lois qui concernent le racisme. Hein, et vu le contexte, avec la sévérité qui convient par rapport à une responsabilité qui est une responsabilité de période. Voilà. Mais c'est du ressort des tribunaux, de la justice, d'un prononcé de justice, hein. Et donc parce qu'on a connu des périodes de règlement de compte dans des situations historiques dans la rue, hein. La justice, c'est une façon de trouver la bonne mesure par rapport à la façon d'évaluer les faits, hein. Voilà.
Donc il faut faire les signalements pour des déclarations comme ça, selon vous, faut pas laisser passer maintenant.
Écoutez, de toute façon,
parce que c'est la vie.
Si on est sur des faits, par exemple, de paroles publiques racistes, c'est passible de la loi. Hein? Punto. Voilà. Donc, je veux dire, je raisonne là sous une forme qui n'est pas une forme politique, mais qui est une forme juridique, hein, adaptée à une situation, à une gravité qui est particulière.
Moi j'aimerais juste quand même souligner que les lois dont vous parlez, les lois sur le racisme, l'antisémitisme, les discriminations, aujourd'hui il y en a un problème en France avec ces lois là et à l'ICRA on plaide depuis des années pour que ça change.
Elles sont plus adaptées selon vous à la situation?
Alors
c'est ce
oui, parce qu'en fait ces lois aujourd'hui ne sont pas inscrites dans le code pénal, enfin les actes ne dépendent pas du code pénal, mais de la loi sur la liberté de la presse de 1882, et nous on plaide pour que du coup les actes racistes, antisémites et discriminatoires soit inscrit,
intégré dans le code pénal,
et ça appartient au législateur de le faire, et je pense qu'il y a urgence là-dessus.
Ensuite, si on respecte le cadre des tribunaux, ça signifie que sur la question est-ce que la plainte, telle que moi je pourrais la traduire par rapport aux faits, c'est une faute, je me mettrai en retrait par rapport à ça, puisque c'est au juge de se prononcer par rapport à la faute.
Absolument.
Voilà. Mais oui. je fais exprès, si vous voulez, d'être dans cette position en retrait distancié pour me situer dans les institutions par rapport à cette question-là.
On va clore ce premier débat là-dessus. Je vais juste rappeler un chiffre, puisque ça a été rendu public hier par Othmane Nasrou, le secrétaire d'État chargé de la citoyenneté et de la lutte contre les discriminations au ministère de l'Intérieur. Il a révélé, c'était mardi, que 887 faits antisémites ont été recensés au cours du premier semestre 2024 dans notre pays. C'est une hausse de 192% par rapport au premier semestre 2023. Bon, je n'ai pas besoin d'en dire plus. On a compris qu'il y avait eu une dérive qui était franchement inquiétante et de plus en plus inquiétante. Une courte virgule musicale maintenant. On va faire une pause dans cette émission. On se retrouve dans une vingtaine de secondes avec un autre sujet à la une de l'actualité nationale. Restez bien à l'écoute de Radio Présence. À tout de suite.
La mêlée de l'info, Éric Dupri.
Retour en direct avec mes trois invités, Léna Chiche-Portiche, Patrick Coste et Lucas Duval. Nous reprenons le débat avec un sujet qui tente à devenir un classique de fin d'année. Samedi dernier, les quatre syndicats représentatifs des cheminots, la CGT, l'UNSA, Sudrail et la CFDT, ont déposé un premier préavis de grève reconductible et illimité à partir du 11 décembre. C'est 10 jours avant le début des vacances de Noël, vous l'avez compris. Une annonce qui laisse craindre un nouveau blocage du transport ferroviaire au moment des fêtes de fin d'année. Comme en décembre 2022, les syndicats de cheminots dénoncent l'ouverture à la concurrence et le démantèlement de Fret SNCF. Ils exigent la mise en place d'un moratoire pour garantir la continuité de cette structure. Est-ce que vous trouvez leurs revendications légitimes? Et quand bien même ce serait le cas, est-ce que vous comprenez qu'ils lancent un mouvement de grève à cette période de l'année, ce que certains voient, évidemment, comme une prise d'otage des usagers? Patrick Coste, vous avez dû en voir d'autres, vous qui avez été cadre de l'éducation nationale.
Il m'est arrivé d'être au milieu de la mêlée, oui, dans un certain nombre de mouvements, comme ce soir, c'est ça. Bon, pour moi, cette histoire de la privatisation du fret de la SNCF, ça s'inscrit dans une dynamique globale de privatisation d'un certain nombre de services publics. Hein. La Poste y est passée et bientôt elle va y passer les deux oreilles, on le sait. Bon, la SNCF, il y a évidemment cette entame sur le fret, qui n'est qu'une partie, mais c'est quand même, on va dire, très significatif du point de vue de ce service public. En ce qui concerne l'éducation nationale, on est en train d'essayer de grignoter d'année en année une libéralisation du fonctionnement du système éducatif. Alors, je ne vais pas trop développer, ce n'est pas le sujet de ce soir, mais à travers... Le pacte où les chefs d'établissement et les enseignants sont dans des situations de choix, sur les conceptions de la politique liées au mérite, sur le fait de casser le statut des fonctionnaires à vie, sur la sécurité de l'emploi. Tout cela, ce sont des textes qui sont en train d'essayer d'être passés. Et la privatisation de la SNCF semble rentrer dans cette dynamique, qui est une dynamique qui appartient à la logique du capitalisme dans son ensemble, sauf qu'on avait un système français du service public, de la sécurité sociale, qui date de l'après-Deuxième Guerre mondiale, et que depuis, on va dire, moi je le date à Giscard, hein, il y a un virage qui est en train de se prendre, qui vient faire fondre cette conception franco-française de la répartition entre le service public et le privé. Bon, et donc là, en l'occurrence, on a une résistance qui est une résistance des ouvriers, des travailleurs sur le terrain par rapport à ces questions-là, mais j'aurais envie de dire que c'est une résistance à un héritage, à toute une tradition du fonctionnement. Voilà. Et il faut quand même se dire qu'il y a des cultures syndicales là derrière, il y a des cultures ouvrières, et c'est très très puissant avec Sud, à la SNCF. Et donc, bien sûr, qu'il soit dans une opposition par rapport à ce phénomène de libéralisation, alors après, on peut discuter sur le plan politique, hein, ce que ça veut dire en termes de justice sociale, d'égalité, de conception du développement de la société. Mais quoi qu'il en soit, qu'il s'y oppose, qu'il y ait cette résistance, je pense que il y a une raison d'être.
C'est légitime.
Il y a une légitimité.
C'est l'adjectif que j'employais.
Voilà. Et ensuite, parce que je crois qu'il y a la question des grèves à Noël.
La question, c'est ça, parce que
grève à Noël. Mais dans la première partie, je disais qu'il fallait hiérarchiser le sens en politique. Bon. Et donc, ce qui est en train de se passer quand même dans notre société, c'est qu'il y a de plus en plus d'oublier économique et d'oublier de la représentation. Bon. Donc, c'est un phénomène, je veux dire, qui politiquement grève littéralement la communauté. Hein. Il y a eu le phénomène des Gilets jaunes. On est là, criait-il à ce moment-là. Hein. Et je crois qu'il y a beaucoup de citoyens qui sont dans cette situation où ils ont besoin d'exister et qu'ils soient reconnus et qu'ils ont besoin par rapport à ça d'être dans des manifestations et des expressions qui leur soient données pour pouvoir rappeler que oui, effectivement, ils sont là. Et je crois que là, dans les hiérarchies du sens, entre la bûche de Noël et cette question des communautés politiques telles qu'elles se posent aujourd'hui, je choisis la question des communautés politiques.
Et donc vous pouvez comprendre qu'il y a un mouvement de grève au moment des fêtes.
Absolument.
Qui bloque le transport ferroviaire à ce moment-là.
Absolument.
Y compris pour les voyageurs. Léna Chichportiche.
Alors, moi, je...
Alors, vous n'êtes plus usager du train, vous ?
Non,
vous l'avez dû quand vous étiez jeune, comme tout le monde.
Je ne le prends pas souvent, mais moi, je ne suis pas totalement d'accord avec vous, parce que je considère qu'en fait, c'est un service public et qu'on ne peut pas prendre en otage, comme vous le disiez, les usagers.
Il n'y a pas que moi qui le dis, effectivement. À chaque fois, on l'entend, ça.
C'est ça. On ne peut pas prendre en otage des gens qui, parfois, n'ont que cette période de l'année pour retrouver leur famille, qui, parfois, retrouvent leurs petits-enfants qu'ils n'ont pas vus depuis un an. J'entends qu'il y a des considérations qui sont
recevables,
voilà.
Oui.
Tout à fait. Mais en fait, on a d'autres moyens que de priver les usagers de partager les moments de fête de fin d'année. Quoi.
Lucas Duval.
Bon, moi, j'ai envie de dire, ça fait partie du folklore de Noël. Hein. C'est quand on arrive
c'est un peu ce que je disais, c'est un classique.
Non, mais quand on arrive dans la période, on décongèle Maria Carré, on sort les décorations de Noël. Non, mais si, chaque année avec la même musique. Et puis, on a les grèves de la SNCF. Donc, ça fait partie du folklore français, voilà. Et puis, tous les pays au monde nous l'envient quand ils
vous
disent.
Vous croyez ?
Non, je ne suis pas sûr, mais quand ils disent la France, c'est les grèves. Bon, bref. Mais en tout cas, non, c'est comme.
Les
comme
grèves,
ça a
c'est
été
bien
dit...
chez les autres, c'est sûr.
Non, mais comme ça a été dit, c'est un héritage. Moi, je suis de gauche, fondamentalement de gauche. Et pour moi, le service public, c'est censé. En fait, il est censé pouvoir répondre à la mission qu'on lui a donnée à la base. Et je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, la SNCF, qui d'ailleurs n'est même plus seule sur son domaine, hein, parce que les services publics en France, c'était à la base des monopoles. Et c'est ce qui garantissait justement ou en tout cas des quasi-monopoles. C'est ce qui garantissait le fait que ces services puissent être, assurés, déjà, et deux, puissent être de qualité. Et malheureusement, avec le détricotage petit à petit de tous nos services publics, eh bien, aujourd'hui, les cheminots, je ne suis pas sûr qu'ils demandent plus de choses, en fait. Ils demandent de garder ce qui existait ou de revenir à l'ancien. Parce qu'on leur a tellement enlevé de
moyens,
de, ouais, déjà de moyens. Mais quand les gens... Je viens du Gers, à la campagne, et sans aucune condescendance, parce que j'en viens. Tout le monde dit, les cheminots, tous les avantages qu'ils ont. Bon, aujourd'hui, quand on rentre à la SNCF, c'est plus non plus l'Eldorado qui pouvait être promis il y a 40 ans. Donc, aujourd'hui, moi, je pense que c'est légitime que s'ils pensent que c'est nécessaire pour malheureusement faire pression sur la direction de la SNCF, qui elle-même est mise sous pression par malheureusement l'État et les contraintes financières, eh bien qu'ils le fassent. Malheureusement, il faudra s'adapter et faire autrement. Mais le problème, c'est que et ça a été dit, si enfin on a eu déjà la Poste, on a eu EDF, on a eu je saurais même plus tous les nommer tellement qu'il y en a eu. En fait, tous nos services publics ont été libéralisés, parfois pour du bon. Quand on regarde sur le numérique et sur l'arrêt du monopole de, donc c'était France Télécom. Voilà, c'était France Télécom. Et aujourd'hui, effectivement, avec l'arrivée sur le marché, c'était il y a 15 ans ou 10 ans de Free, effectivement, on a vu que tous les prix ont baissé, et avec du coup chaque opérateur qui a dit: ah mais moi je propose un peu plus, mais moi un peu plus. Mais bon, là effectivement, au niveau de la concurrence, ça a pu être intéressant. Mais aujourd'hui, si on parle de services publics, eh bien on peut penser à l'électricité ou à l'énergie en tout cas. Il y a des opérateurs privés qui se gavent, il faut le dire, qui se gavent sur le dos d'EDF et donc sur le dos des Français. Moi je pense qu'il faut entendre les revendications légitimes de ces personnels, et puis en espérant que leurs revendications soient entendues pour qu'ils disent: bon ben on est ok, on ne fait plus grève. Voilà.
Oui. Alors je vais vous chicaner un peu là, mais certains ont lancé l'idée, ça existe en Italie, de restreindre le droit de grève dans certains services publics tels que le transport ferroviaire, voire de l'interdire les mouvements de grève au moment de Noël et des vacances scolaires. Est-ce que vous pensez, Léna Cige-Portige, qu'il faudrait envisager des choses comme ça?
Moi, je serais plutôt pour, oui, parce que je conçois pas en fait qu'on se serve de cette période de l'année pour appuyer ces revendications qui peuvent être légitimes. Le droit de grève est un droit reconnu en France sans souci, mais on ne doit pas prendre en otage la population. Tout comme quand il y a des manifestations, on respecte tout le monde, on ne bloque pas forcément la voie publique toute la journée. Et bien, c'est pareil en fait pour le transport ferroviaire.
Donc vous pensez qu'on pourrait lancer cette idée, et peut-être, je ne sais pas de quelle façon, peut-être pas un référendum quand même, mais vous pensez que la population, oui, en tout cas que la population française pourrait être d'accord?
Je pense qu'il y aurait
majoritairement.
Oui, je pense qu'il y a je pense que les usagers sont excédés en fait de tout ça, des grèves, d'autres choses qui ne fonctionnent pas très bien à la SNCF, et je pense que qui serait oui peut-être.
Alors Patrick Cosse, là, j'étais un peu provocateur, mais quand oui, vous voyez des gens qui proposent genre de mesures,
surtout donner l'exemple de l'Italie quand même, qui à cet égard n'a pas la même histoire, mais je crois que de toute façon justifier qu'il y ait ces dommages collatéraux sur les usagers, il faut comprendre que l'on est dans une scène politique qui est celle d'un rapport de force.
Oui, mais bien sûr.
Et donc, la question est de savoir qui, et c'est là qu'il faut toujours pas hiérarchiser, qui est victime de qui. Et donc, si on est dans un système libéralisé dont les finalités sont quand même des accumulations de profits, je veux dire, il y a des phénomènes de poche de profits qui se font, et on sait très bien que dans la répartition, dans la redistribution entre le riche et le pauvre, s'il n'y a pas un certain nombre de protections collectives par rapport à cette répartition, eh bien ça se fait au détriment de plus en plus de pauvres. Je pourrais vous citer les chiffres des pauvres en France. Il y en a 9 millions et quelques, et 2 millions et quelques qui ne mangent pas des protéines, un repas tous les deux jours. C'est quand même la situation sociale dans laquelle on est. Bon. Donc, par rapport à ces évolutions-là, il y a des victimes, et qui ne mangeront pas des bûches de Noël. Bon. Et donc la question est de savoir où on place dans les rapports de force la solidarité des uns par rapport aux autres. Voilà. Et compte tenu des tendances et des évolutions qui sont en train de se prendre, je crois qu'il faut, répondre présent dans ces rapports de force vis-à-vis de ces protections, vis-à-vis d'un modèle français du service public qui a un héritage et qui convient de défendre. Alors voilà, alors ensuite, quand on est dans un rapport de force, ça dérange. Un combat politique est toujours quelque chose qui désorganise, qui crée une perturbation. Et ensuite, il faut avoir évidemment par rapport à ces perturbations une rationalité par rapport à ces conceptions politiques qui fait que l'on fait des choix.
Mais allez-y. Juste, la SNCF en fait a ce pouvoir que n'ont pas des milliers d'autres travailleurs qui ne mangent pas également de la viande tous les jours ou tous les deux jours. Et c'est là-dessus aussi qu'il y a un déséquilibre.
Oui, ils n'ont pas les mêmes possibilités de nuire.
De nuire, avec tous les guillemets.
Il y a des forces de frappe par rapport à des systèmes constitués qui sont différentes d'une organisation à une autre. Mais il y a des formes également de blocage qui peuvent se produire qui ne passent pas par les organisations. Et il y a eu par exemple les Nuits Debout, il y a eu les Gilets jaunes. Et donc là, on a vu effectivement un certain nombre de pauvres et d'oubliés qui ont bloqué tout le pays entier et qui ne passaient pas par ces organisations qui étaient syndicales, qui sont des armées littéralement de conflictualité par rapport à des situations comme celle-là. Mais il y a aussi des expressions spontanées qui sont susceptibles de se former à un moment donné ou à un autre.
Lucas Duval, l'idée de restreindre, si ce n'est d'interdire, de restreindre le droit de grève au moment des fêtes ou des vacances scolaires, vous, c'est quelque chose que vous excluez complètement ?
Oui. Moi, je pense qu'au lieu de restreindre, il faut revenir à un vrai dialogue social. Voilà. Parce que ça fait des dizaines d'années qu'il
n'y a... par les luttes syndicales, qui passe par...
Non, mais des mouvements de grève, oui, s'il en faut, mais juste que en France, nous retrouvions une vraie culture du dialogue. Et que ce soit avec les représentations syndicales, mais que ce soit aussi au sein de l'Assemblée, au sein des conseils municipaux et dans la classe politique, et même dans la société en général. Parce que je pense qu'on a atteint un tel niveau de colère accumulée dans toute la société que le dialogue est devenu très difficile.
Bon, toujours... Patrick Cosse veut ajouter quelque chose très vite.
Je lève le doigt. Parce que sur le plan politique, il y a eu beaucoup d'orientations qui a été prise sur les questions d'identité, identité nationale, etc. Et beaucoup de la question de la division du riche et du pauvre et du mouvement social a perdu de la place par rapport à cette évolution-là. Et donc, qu'il y ait un retour d'un questionnement et de problématiques du rapport social, c'est aussi intéressant par rapport à ce qui se passe dans notre société.
Bon, toujours est-il que l'inquiétude est grande pour les usagers du transport ferroviaire en vue de la période des fêtes. Bah, peut-être qu'un accord sera trouvé pour éviter le blocage des trains au moment des vacances de Noël. Il nous reste un tout petit peu de temps pour vos coups de gueule ou coups de cœur du moment. Très rapidement, Lucas Duval, vous allez ouvrir le bal.
Eh bien, d'habitude, je fais des coup de gueule, mais ce soir ce sera un coup de cœur.
Allez-y.
Eh bien, je suis très heureux, je viens de vérifier le chiffre. Nous avions une grande campagne de dons avec la LICRA sur deux jours, et qui d'ailleurs n'est pas finie si jamais, où en gros tous les dons étaient doublés, et nous avons atteint, ou nous atteindrons dans les quelques minutes qui arrivent, les 200 000 euros pour la lutte contre le racisme et l'antisémitisme et les discriminations dont notre pays a grand besoin.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Léna Chiche-Portiche, est-ce que vous avez un coup de cœur ou un coup de gueule?
Alors,
les deux.
Moi, ça serait plutôt un coup de gueule. On a fêté les 400 jours du 7 octobre. Il y a toujours 101 otages à Gaza. Je voudrais juste rappeler qu'il y a deux Français, Oadia Alomi et Ofer Calderon, qui sont toujours dans les tunnels de Gaza. Et je me permets de m'étendre deux minutes sur le fait de rappeler quand même que la guerre a démarré avec un pogrom, avec un attentat sans précédent dans l'histoire d'Israël. Il y a eu 1200 morts et une prise d'otage de 250 personnes. Si on fait un parallèle avec le 11 septembre, c'était 3000 morts, mais c'est une population qui est 28 fois supérieure à la population israélienne. La différence aussi entre le 11 septembre, c'est que les Américains ont vécu un attentat abominable qui s'est terminé au soir du 11 septembre. Les Israéliens sont toujours dans cet attentat. On a toujours 101 otages, je le répète, qui sont à Gaza. Et la guerre serait finie depuis longtemps si le Hamas avait
rendu, libéré les otages.
Voilà, exactement.
Patrick Coste.
Coup de gueule et du CNAT.
Coup
de gueule et du CNAT, c'est-à-dire que là, il vient d'y avoir une reconduction des mesures qui avaient été prises par Gabriel Attal. Juste deux faits. Premier fait, maintien du brevet pour passer en seconde. Ça veut dire qu'il est susceptible d'y avoir 12 000 jeunes qui ne peuvent pas passer en seconde professionnelle et qui seront donc orientés sur le CAP, si c'est appliqué tel quel. Et si c'est des orientations CAP, je veux dire en termes de progression de la jeunesse, de leur formation, c'est évidemment un recul très, très important. Deuxième sujet, choc des savoirs. Choc des savoirs, ce sont des classes de niveau, c'est-à-dire qu'on gèle l'hétérogénéité des classes. Alors c'est très intéressant la différenciation, c'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Mais à partir du moment où on forge des niveaux et qu'il y a un programme qui est un programme unique, il y a un phénomène de dépréciation quand on est dans les groupes faibles. Ce n'est pas de la véritable différenciation, c'est à ce moment-là de la mise à l'écart des niveaux par rapport à une progression unique.
770e Élève d'Info est arrivée à son terme. Merci beaucoup à tous les trois d'y avoir participé. Un remerciement particulier à Léna Chiche-Cortiche qui faisait ses débuts dans cette émission. Merci à Coraline Camebrac à la réalisation de ce numéro. Le podcast est disponible dès maintenant sur le site de Radio Présence. Merci à vous tous de votre écoute fidèle. Rendez-vous jeudi prochain. À bientôt.